Donc, lisons pour la gloire de notre Seigneur, Luc 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 38. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui parut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. À la sortie, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. » À partir du verset 26 maintenant. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle situation, salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Amen. Donc, Jean-Baptiste est arrivé en premier. Il est le précurseur le messager envoyé en avant pour annoncer la venue du roi. Puis vient Jésus, sa majesté, le roi d'Israël, le Fils de Dieu, pour chercher et sauver les pécheurs. Et donc, dans les premiers chapitres de Luc, leurs histoires sont présentées côte à côte. À des fins de comparaison et de contraste, Jean et Jésus, donc on a deux cousins, nous avons deux grossesses, nous avons deux chants de louange, nous avons deux accouchements au début de deux grandes vies. Et donc les similitudes entre les deux histoires sont frappantes. Jean et Jésus sont tous les deux nés de femmes pieuses qui, sans l'intervention divine, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Les personnes qui ont entendu ces annonces, donc nous avons Zacharie, qui est le prêtre, et Marie, qui est la Vierge, interrogèrent l'ange et ils reçurent un signe de cet ange. Et pourtant, malgré toutes les similitudes, ce que Luc veut que nous puissions voir ici, ce sont les différences qu'il existe entre Jésus et puis Jean. Alors, qui est le plus grand d'entre les deux? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jean? La mère de Jean-Baptiste était stérile, la mère de Jésus n'avait jamais été avec un homme. Jésus régnerait sur le trône éternel de David, Jean serait grand devant le Seigneur, comme nous voyons dans Luc 1, verset 15. Jésus serait grand, mais sans réserve, plus grand que Jean-Baptiste, au verset 32. Jésus serait le Fils du Très-Haut, Jean serait rempli du Saint-Esprit, mais Jésus serait conçu par le Saint-Esprit. Qui est alors le plus grand? Donc à travers cet évangile de Luc, nous voyons que Jésus était comme Jean, mais supérieur à tous égards, et était plus puissant que Jean. Donc je vais aborder quatre points. Mon premier point, des versets 26 au verset 28, nous avons les salutations de l'ange à Marie. Deuxième point, l'annonce de l'ange à Marie. Troisième point, la question de Marie à l'ange. Et enfin, la réponse de Marie. Et donc la naissance de Jésus, donc mon premier point, du verset 26 au verset 28, la naissance de Jésus, comme celle de Jean, fut annoncée par l'ange Gabriel, qui commença par une salutation. Des versets 26 au verset 28, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Il nous faut noter aussi que l'ange aurait pu rendre visite à n'importe qui en Israël. Il aurait pu aller saluer n'importe quelle autre personne. Mais Marie était cette personne qui était choisie. Elle était jeune, on dit peut-être, en fait les commentateurs disent peut-être dans la douzaine, elle avait autour de 12-13 ans, et c'était une étape délicate d'une enfance que de recevoir un tel messager et sous cette forme-là. Et nous voyons aussi qu'il y avait une certaine féminité chez Marie parce qu'elle était fiancée à Joseph. Et donc, comme beaucoup de gens en Israël, Marie, c'était une paysanne. Elle n'était pas cultivée, elle n'avait pas d'instruction et elle vivait dans une petite ville de campagne, éloignée de toute métropole parce que Nazareth n'avait rien à voir avec Jérusalem. Nazareth était une petite ville. Et comme dans Jean 1,46, comme on le disait à cette époque, est-ce que quelque chose de bon peut arriver à Nazareth? Marie était également une femme dans une culture qui négligeait les femmes. D'un point de vue purement humain, Marie était insignifiante. Elle ne représentait rien. Pourtant, elle a reçu le plus grand honneur qu'une femme n'ait jamais reçu. la visite de l'ange Gabriel. Elle a été choisie pour être la mère de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et en choisissant Marie, Dieu commençait à montrer qu'une humiliation de son Fils devrait était nécessaire pour le salut des pécheurs. Et Jean Calvin fait un constat intéressant en disant que la prophétie touchant la naissance de Jean a été faite au temple et publiée à tout un peuple. Mais la promesse de la naissance de Christ est faite à une vierge en une bien petite ville insignifiante et demeure comme ensevelie dans le cœur d'une jeune et petite fille. Martin Luther, par contre, a observé que Dieu aurait très bien pu se rendre à Jérusalem, choisir la fille de Caïphe, qui était riche, qui était belle, qui avait des servantes également. Mais le choix s'est arrêté sur Marie. Et nous voyons aussi qu'elle était fiancée à Joseph, qui était de la maison de David. Et ce qui peut rapporter que Marie ou Joseph ont comme descendants tous les deux David, le roi David. Et lorsque nous lisons dans 2 Samuel 7, au sujet de l'alliance davidique, Dieu a fait la promesse à David d'une lignée royale qui allait subsister dans le temps, qui allait régner perpétuellement. Et donc, ainsi, de même que Dieu rattachait la nouvelle alliance à l'ancienne alliance, en faisant naître Jean-Baptiste de la race sacerdotale d'Aaron, et de la même façon, il a fait surgir le Sauveur annoncé par les prophéties de la lignée de David, le roi d'Israël. Et lorsque nous lisons des versets 12 au verset 17 de 2 Samuel 7, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. » Moi-même, je serai pour lui un père et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront toujours, pour toujours assurés devant toi. Ton trône pour toujours affermi. Nathan parla à David conformément à toutes ces paroles et à toute cette vision. Et donc, dans ces versets, nous voyons un double accomplissement de la promesse. Premièrement, dans cette alliance, il y a la promesse que la lignée royale de David sera inconditionnellement préservée. Inconditionnellement préservée. Même si les fils de David désobéissent et que l'Éternel les châtie, sa faveur ne se retirera point de la maison de David, comme ce fut le cas de Saül. Dieu préservera la lignée de David. Et le deuxième accomplissement de cette promesse, elle est plus de nature eschatologique. Nous croyons que David comprenait qu'il fallait attendre plus que Salomon. Salomon était son fils, mais nous croyons que David attendait plus que Salomon. En écrivant à propos de son fils, dans le psaume 110, verset 1, il dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jésus utilise ce passage pour questionner les docteurs de la loi en leur demandant comment ça se fait que David appelle son fils Seigneur. David comprenait que la promesse dépassait Salomon, qu'il n'appelait pas Seigneur. Jésus est le fils de David. C'est celui-là qui bâtit la maison. D'une part, Christ lui-même, lorsque nous lisons Jean 2, 19 à 21, Christ est la maison de l'Éternel. Jean 1, verset 14, nous voyons que le terme « il est le tabernacle de Dieu parmi les hommes ». Et Ésaïe 7, verset 14, « il est Emmanuel ». Ce n'est donc pas l'homme qui bâtit une maison pour Dieu, c'est Dieu qui vient vivre parmi les hommes. En même temps, l'Éternel dit à David que son fils bâtirait une maison pour Dieu. Et Jésus n'a-t-il pas dit que je bâtirai mon église ? C'est Jésus qui bâtit son église. Donc, frères et sœurs, Dieu garde ses promesses. Il tient ses promesses. Et ses promesses sont accomplies pour nous en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Dieu a choisi Marie parce que le plan du salut exigeait qu'elle s'humilie. Et ensuite seulement soit exaltée. Pour nous délivrer de nos péchés, Dieu a choisi Marie parce que le plan du salut exigeait que Jésus s'humilie et ensuite seulement soit exalté pour nous délivrer de nos péchés et nous élever à la gloire. Et Jésus a d'abord dû entrer dans notre corps de misère pour accomplir la volonté du Père. Et nous voyons aussi dans ce passage que la grâce de Dieu est pour les hommes. Dieu a certainement fait grâce à Marie. C'est le sens de la salutation de l'ange. Au verset 28, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et par ces paroles, l'ange Gabriel annonce la bénédiction de Dieu sur Marie. Dieu était avec elle pour la bénir, non à cause de son propre mérite, mais c'était par pure grâce qu'il a béni. Et cette salutation de l'ange est souvent mal comprise, parce que ces idées proviennent un peu de l'Église catholique romaine, dans la prière de « Je vous salue Marie », parce que Marie n'est pas pleine de grâce. Marie n'est pas dépositaire de la grâce. Marie est récipiendaire de la grâce. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui accorde la grâce. Marie, c'est pas dit dans les Écritures que Marie est sans péché. C'est Dieu qui fait grâce. Et donc Marie, par sa position, était récipiendaire de la grâce de Dieu. Elle n'est pas dépositaire de la grâce de Dieu. La façon dont Marie nous aide n'est pas en nous donnant la grâce, mais en nous montrant que Dieu nous fait grâce. Que c'est Dieu qui est venu à nous pour nous sauver, pour nous purifier de nos péchés. Son expérience n'est pas notre expérience, néanmoins, son exemple est pour nous. Depuis qu'elle a reçu la grâce de Dieu, son exemple prouve que Dieu accorde une faveur imméritée aux pécheurs que nous sommes. Et même si nous nous sentons insignifiants, piétinés, méprisés, le salut de Gabriel montre la grâce de Dieu pour les humbles que nous sommes, les humbles pécheurs que nous sommes. Mon deuxième point, l'annonce de l'ange, les versets 29 au verset 33. Ce que l'ange disait à Marie se voulait rassurant. Mais on peut voir que Marie était troublée. Marie n'était pas, elle était jeune, elle n'était pas hystérique, parce que ça peut être de l'hystérie lorsqu'on est jeune. Et puis, mais Marie, ce qui était particulier, c'est qu'elle était troublée par cette visite. Comme le raconte Luc au verset 29, elle fut très troublée par cette parole et elle cherchait à discerner quel genre de salutation cela pouvait être. Elle était troublée. Et donc, Marie, naturellement, comme nous tous, voulait savoir qu'est-ce que c'est, ce qui se passe. Pourquoi un ange vient-il me parler ? Gabriel ne laissa pas Marie en suspens, non ? Mais suivit son salut d'une annonce. Des versets 30 au verset 33. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Et donc, par ces paroles, l'ange annonce le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. La venue de notre Messie, de Jésus-Christ, le roi des rois. Donc, Gabriel dit d'abord à Marie de ne pas avoir peur, car elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu montrait une faveur imméritée à Marie par sa grâce. Elle donnerait naissance à un fils. Ensuite, Gabriel a expliqué la signification de cet enfant en disant sur sa personne et sur le travail qu'il va accomplir au milieu des hommes. Donc, ensuite, l'ange, qui était-il? Que ferait-il? L'ange a dit à Marie d'appeler son nom Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. C'était le premier indice que Jésus allait être le sauveur de l'humanité. Il apporterait le salut aux pécheurs en mourant sur une croix, puis en ressuscitant dans la gloire. Dès l'annonce de sa naissance, son nom témoignait de cette œuvre salvatrice qu'il allait accomplir. Donc ensuite, l'ange a dit que Jésus serait grand. Lorsque Gabriel apparut à Zacharie, il dit que Jean-Baptiste, dans Luc 1,15, que Jean serait grand devant le Seigneur. Mais Jésus est le Seigneur, alors quand Gabriel dit qu'il serait grand, il n'a aucune... C'est-à-dire que la grandeur de Jésus n'a aucune limite comparée à la grandeur que Jean avait. Qu'il serait infiniment grand. Et nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, chaque fois que le mot « grand » est utilisé, il est associé à Dieu. Lorsque nous lisons dans les psaumes, comme le psaume 92, « La sagesse de Dieu est grande », dans le psaume 5, « Ses œuvres sont grandes, sa puissance est grande, sa miséricorde est grande ». Et donc, en disant que Jésus-Christ était grand, Gabriel témoignait de la divinité de Jésus-Christ. Jésus est grand en sagesse, grand en puissance, grand en amour dans la majesté de son être divin. Pourtant, Jésus est né dans des circonstances, je dirais, je ne veux pas minimiser le terme, mais il est né dans une étable. Un Dieu qui vient parmi nous, qui naît dans une circonstance humaine, misérable, dans une étable. Il aurait pu naître dans la maison d'un palais, plutôt dans le palais d'un roi, par exemple. Dans une maison ornée de tout type de guirlandes, une maison plus égayée. Mais Jésus est né dans une étable. Et sur terre, Jésus a subi l'humiliation de la pauvreté, la solitude, l'itinérance. Quand je parle d'itinérance, il est tu te retrouves dans une situation sans logement et il s'est retrouvé à Bethléem. C'est-à-dire qu'il a vécu tout type d'humiliation, lui qui était un Dieu. Pourtant, il était toujours Dieu et Dieu l'a exalté à la grandeur en le ressuscitant des morts. Mais nous, en tant qu'humains, en tant que pécheurs, nous comprenons souvent l'inverse. Nous nous exaltons, nous voulons nous élever. Et c'est à ce moment-là que Dieu, lui, nous humilie. Mais Jésus a fait exactement le contraire. Il s'est humilié. Il a laissé Dieu faire son exaltation. Plus tard, quand les disciples voulurent savoir qui était le plus grand, dans Luc 9, 48, Jésus leur a dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et nous voyons que Dieu ne définit pas la grandeur par le statut, par notre position dans la société, par l'emploi que nous occupons, ou peut-être par l'emploi que nous n'avons pas, mais c'est par le service. C'est par le service. Et nous lisons dans Luc 22, 27, « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Christ savait qu'il devait s'humilier pour nous sauver. Jésus était le plus grand parce que, par son sacrifice sur la croix, il est devenu notre serviteur à nous tous. Après avoir témoigné de sa grandeur, l'ange dit que Jésus sera appelé le Fils du Très-Haut. Gabriel a utilisé un témoignage similaire quelques instants plus tard, appelant Jésus le Fils de Dieu, au verset 37. Le Très-Haut, c'était une expression favorite de David. Lorsqu'on lit les psaumes 7 et les 17, ici, Gabriel identifie Jésus comme le Fils de Dieu, le Fils du Dieu, le Très-Haut. Et donc ce titre appartient à Jésus de manière unique. La filiation divine est son identité éternelle en tant que cette deuxième personne de la Trinité. Le Fils de Dieu. Il y a un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et au verset 22, et plutôt dans Luc 1, verset 35, ce que Luc révèle progressivement dans la conception de Jésus, lors de son baptême, de Luc 3, verset 22, et lors de sa transfiguration, Luc 9, verset 35, et dans sa résurrection, dans Actes 13, 33, c'est que Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, est le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Quelle joie cela a dû donner à Gabriel d'annoncer cette nouvelle à Marie. En déclarant que Jésus est la deuxième personne de la Trinité, le divin Fils de Dieu, Gabriel a également déclaré que Jésus régnerait en majesté sur son trône, sur l'ancien trône de David. Comme Luc l'a indiqué au verset 27, son père terrestre, Joseph, venait de la maison de David, ce qui signifie que Jésus était l'héritier légitime de David. Mon troisième point, la question de Marie à l'ange Gabriel, des versets 34 au verset 37. Marie a cru à la prophétie de l'ange. Elle a cru à la prophétie de l'ange. Mais elle avait encore une question. Comme nous tous, nous avons toujours des questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Et donc Marie avait encore une question à la suite de l'annonce de l'ange. Donc au verset 34, « Comment cela se passera-t-il puisque je suis vierge ?» Et Marie a visiblement compris que l'ange disait que son enfant serait conçu avant son mariage, parce que Marie était fiancée à Joseph. Donc elle comprenait qu'elle n'était pas encore mariée, mais comment ça se faisait qu'elle allait devenir enceinte. Et à cette époque, les fiançailles étaient officialisées lors d'une cérémonie très importante et devant tout le monde. Et à cette époque, lorsqu'on était fiancé, on était considéré comme la mariée déjà du futur époux. Et donc les fiançailles étaient considérées comme une promesse définitive de fidélité mutuelle. Et leur violation était considérée comme un adultère. Donc vous pouvez comprendre la question de Marie. Comment cela allait se passer? Et donc, comme elle était une femme pieuse, Marie se réservait pour le mariage. Elle préservait sa pureté, mais cela soulevait des questions évidentes dans sa vie. Comment cela se passerait-il puisque je suis vierge? Elle n'a pas posé cette question par incrédulité. Parce que lorsqu'elle dit « comment cela va se passer ?» d'un côté, elle croit à l'annonce, à l'opposé de Zacharie, on va le voir. Mais lorsque le vieux Zacharie a reçu la promesse d'un fils, il demanda « comment saurais-je cela ?» Au verset 18, il n'était pas sûr de croire ou non à l'ange. Il voulait une sorte de confirmation. Mais à l'opposé, Marie posa la question de savoir « comment cela va se passer ?» Donc, d'un côté, elle avait cru ce que l'ange lui disait. Donc, en d'autres termes, elle voulait savoir comment cela allait se passer. Contrairement à Zacharie, elle croyait à la promesse de Dieu. Elle croyait à l'ange. Elle croyait que cela allait se réaliser. C'est pourquoi elle demande comment cela va se passer. Et c'était une question complètement honnête de Marie. Et Gabriel lui donna un élément de réponse pour confirmer la promesse de Dieu. Les versets 35 au verset 37, l'ange Gabriel lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse? Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Ce qui est marquant ici, c'est que l'ange Gabriel commence par le Saint-Esprit. Donc, comment cela allait se passer? C'est clair que c'était l'intervention du Saint-Esprit. Le fils de Marie serait conçu par la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit des miracles des plus prodigieux de l'histoire de l'humanité, la naissance virginale de Jésus. Marie a posé la même question que les gens se posent encore aujourd'hui. Comment est-ce possible? Comment une femme peut tomber enceinte si elle n'a connu aucun mari, aucun homme, ou si elle est toujours vierge? Et donc, la réponse est très simple ici. Si nous croyons à la puissance de Dieu, la réponse est que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. C'est le miracle de la naissance virginale que les chrétiens ont toujours confessé. Et nous le disons dans le symbole des apôtres également, il a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Et même dans le symbole de Nicée également, Dieu le Fils s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et a été fait homme. Et c'est ainsi que Marie a eu un fils. L'enfant dans son ventre est venu du Saint-Esprit. Sa grossesse est un acte de grâce divine, explicable non pas en termes de Nous parlons souvent en tant qu'humains d'insémination artificielle, ce genre de choses, mais c'est la puissance créatrice du Saint-Esprit. Dans le livre de la Genèse, l'Esprit était présent lors de la création. Lorsqu'il planait au-dessus de l'eau, dans Genèse 1, verset 2, et plus tard, c'est le même Esprit qui guidera Jésus, l'oignant pour son ministère. Et c'est par l'Esprit que Jésus a fait l'expiation de nos péchés, lorsque nous lisons Hébreux 9, 14, et lorsque nous lisons Romains 1, 4, par l'Esprit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Puis Jésus envoya également l'Esprit pour son Église dans Actes 1, verset 8. Et c'est par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de son Esprit, que nous servons l'Église, son Église aujourd'hui. Et donc sa naissance virginale, sa conception divine par l'Esprit Saint, Jésus n'a pas été corrompu par la culpabilité d'Adam. L'humanité déchue n'a pas pu produire en Dieu. L'humanité s'est fait des dieux en bois, des dieux faits par des hommes, des dieux qui ne répondent à aucune prière. Mais l'humanité devait s'attendre à un Dieu qui viendrait du ciel. Par conséquent, Dieu a envoyé Jésus dans le monde en tant que son Fils parfait, né sans péché. Au cas où elle aurait du mal à croire, Dieu a donné ce signe-là à Marie. Et donc, si Dieu pouvait accomplir le miracle par cette naissance virginale, alors il est tout à fait capable de répondre à nos prières. Il est tout à fait capable de nous donner la force de surmonter nos difficultés. Il est tout à fait capable de nous montrer le chemin que nous devons suivre, parce que nous voyons que rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu de la naissance virginale. Il est le Dieu trois fois saint. Il est le Fils de Dieu et il est notre Sauveur. Enfin, mon dernier point, le verset 38, la réponse de Marie. Et nous voyons que la rencontre de Marie avec l'ange se termine par une confession de foi, une grande confession de foi. Au verset 38, Marie dit: voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. La Bible nous dit que dans Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Marie avait cette assurance. Elle avait cette foi en Dieu. Et sa rencontre avec un ange ne la laisse pas sans voix. Au contraire, elle a pu confesser sa foi et accepter Dieu comme son sauveur. Zacharie a perdu la voix parce qu'il a douté. Il a douté, Zacharie. Mais comment cela se fera-t-il? Est-ce que j'aurai un signe? Il voulait une confirmation. On sentait de l'incrédulité comparée à Marie qui accepta et demandait comment cela allait se passer. Et elle a pu le faire parce qu'elle a pris Dieu au mot. Elle a dit au verset 38, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas demandé à Dieu de lui expliquer ce qui se passerait plus tard si elle disait oui. Qu'est-ce que je vais vivre par la suite? Est-ce que je vais subir la peine de mort parce que À cette époque, il y avait la peine de mort pour les femmes qui étaient adultères. Mais elle a fait confiance à ce que l'ange lui a dit, sans pour autant voir ce qui allait se passer par la suite. Tout ce qu'elle avait besoin de savoir, c'était que Dieu voulait qu'elle fasse. Tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle avait besoin de savoir, c'était ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Une fois qu'elle le savait, cela lui suffisait amplement. Et même certains héros de la foi ont souvent fait preuve de doute face à Dieu. On pense à, dans Exode 4, verset 13, à Moïse, qui a demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre pour diriger l'Exode. Il doutait, en fait, il se disait qu'il ne pouvait pas. Et nous pensons aussi à Gédéon dans Juges 6, verset 15, où il dit qu'il ne pouvait pas délivrer Israël parce qu'il était l'homme le plus faible, de la tribu la plus faible. Ou Jérémie, qui a dit qu'il était trop jeune, dans Jérémie 1, 6, pour ce travail. Mais Marie était une femme de grande foi. Elle avait cette assurance. Elle a compris qu'une fois que nous savons ce que Dieu veut que nous fassions, tout retard est juste un signe d'incrédulité. Elle a compris ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Elle a pris Dieu au mot et elle a cru. Marie faisait confiance à Dieu, même si cela semblait impossible. Selon ses propres mots, elle était, comme elle le dit au verset 38, « Je suis la servante du Seigneur ». Donc, elle s'identifiait comme la servante de Dieu. Elle voulait offrir à Dieu une obéissance totale, complète. Elle s'était engagée à faire tout ce qu'on lui disait de faire. Sa vocation était de servir son Dieu. C'était un grand honneur, le plus grand honneur qu'une femme n'ait jamais reçu. Et aujourd'hui encore, Marie est bénie comme la mère de Jésus. Mais son service a également entraîné de grandes souffrances. Pour accepter la naissance de Jésus, Marie devait être prête à abandonner presque tout ce qu'elle connaissait et ce qu'elle aimait aussi. Elle devait être prête à abandonner Joseph. Comment est-ce qu'il allait réagir à ça? Elle a accepté, elle a eu foi en Dieu, mais elle ne s'est pas posé la question de savoir, et Joseph, qu'est-ce qui va se passer? Elle a mis sa confiance en Dieu. Comment pouvait-il consentir à prendre pour épouse, à la prendre si elle était enceinte d'un enfant qui n'était pas le sien? Même aujourd'hui, en tant qu'humain, vous êtes fiancé et que votre fiancé vienne vous dire que je suis enceinte. Hey. Donc on peut se mettre à la place de Joseph. Mais Marie a mis son entière confiance en Dieu, son sauveur. Et on peut imaginer les ragots dans le village de Nazareth. On va aller peut-être se dire que c'est un enfant de bâtard, ainsi de suite. Que Marie a cherché à humilier son mari. Son futur mari. Et donc, il y aurait toujours des gens qui appelleraient possiblement cet enfant de bâtard. Certains pourraient même dire qu'elle méritait de mourir, que Marie méritait de mourir. Mais elle n'a pas regardé aux conséquences. Elle a regardé à cette promesse et elle a mis sa foi en son Dieu. Et c'est ce que signifiait pour Marie se soumettre à la volonté de Dieu pour sa vie. Et lorsqu'elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », elle consentait à une vie de souffrance pour la gloire de Dieu. Elle était prête à souffrir pour la gloire de Dieu. Comment a-t-elle fait cela? Marie a répondu par la foi en son Dieu. Elle a fait confiance à Dieu pour tout. Elle a fait confiance à Dieu pour sa relation avec Joseph, pour sa réputation à Nazareth, pour sa souffrance physique et les angoisses de son âme. Marie croyait en Dieu et le suivait avec une obéissance aveugle. Et c'est ce que signifie pour nous aujourd'hui être chrétien. Croire en Jésus-Christ, le suivre aveuglement, le servir, vivre pour Christ. Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Cela signifie encore faire confiance à Dieu pour tout, pour nos relations, pour nos familles, dans nos lieux de travail, pour ce que nous voulons entreprendre. C'est faire confiance à la réponse ou à la non-réponse de Dieu dans nos projets aussi. Et nous voyons dans la réponse de Marie que nous devons confier nos problèmes à Dieu seul. Nous reposer en lui en toutes circonstances. Peu importe ce que peuvent dire les autres lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous servons sans cesse le Seigneur, mettons notre espoir uniquement en lui. J.C. Riley a écrit « Cherchons dans notre christianisme pratique au quotidien à exercer le même esprit, deux fois béni que nous voyons ici en Marie. Soyons prêts à aller n'importe où et à être n'importe quoi, quoi qu'il en soit. Tant que la volonté de Dieu est claire, présente et immédiate et que le chemin du devoir est clair. » Les paroles du bon évêque Hall sur ce passage méritent d'être rappelées. Toutes les disputes avec Dieu, après que sa volonté soit connue, naissent de l'infidélité. Il n'y a pas de preuve de foi plus noble que d'amener toutes les puissances de notre entendement et de notre volonté captives à notre Créateur et sans aucune question d'aller les yeux bandés là où il nous mènera. Quand il plaît à Dieu d'accomplir ses grands desseins, Dieu lui-même sait préparer ses instruments, comme à l'image de Marie et à la veille de Noël. Donnons nos cœurs à Christ. Confions-nous pleinement en lui. On peut dire aveuglément. Nous aimons souvent raisonner, nous voyons l'exemple de Marie, qui a cru sans contredit, qui a cru tout simplement croire à la volonté de notre Dieu et le faire confiance. Lui seul va nous diriger, lui seul nous conduira, lui seul sait ce qui est bien pour nous. Lui seul sait ce qui est bien pour notre âme. Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point, car nous avons un Dieu qui est puissant, qui est grand, qui est fort. Et c'est le roi des rois, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour le sacrifice de ton Fils, Seigneur. Seigneur, nous avons vu une Marie qui t'a fait confiance. Une Marie qui était troublée, mais qui a été rassurée par une annonce majeure de l'histoire de l'humanité. Seigneur, tu as fait en sorte que Jésus-Christ vienne parmi nous. De sa nature humaine et de sa nature divine, il est resté au milieu de nous. Il a vécu la misère. Il est rentré dans notre misère, Seigneur. Lui qui est miséricordieux, qui a un cœur pour la misère, est venu pour nous sauver, pour nous délivrer des captifs. Seigneur, nous savons que Marie est juste un instrument. Marie n'est pas Dieu. Ce n'est pas Marie qui donne une grâce, mais Marie a reçu cette grâce de faire naître le Sauveur de l'humanité. Je te prie, Seigneur, aussi de toucher nos frères qui s'égarent dans ces raisonnements éternels, afin qu'ils puissent comprendre que la grâce toute puissante, que le salut nous vient de Dieu par le sacrifice de Christ. Jésus est le seul vrai Dieu, la deuxième personne de la Trinité, celui qui s'est fait homme, venu parmi nous, qui est né dans une étable, dans la plus grande des misères, et qui est mort de la plus pire des morts, la mort sur la croix, juste pour que nous soyons sauvés. Seigneur, te priant d'incliner nos cœurs à la venue de ton Fils, au sacrifice de Jésus. Merci de nous guider, Seigneur, en tant qu'assemblée. Merci de nous donner cette foi vivante en Christ notre Seigneur. Cette foi qui nous donne ce zèle de le suivre aveuglément, de le suivre de tout notre cœur. Merci pour tes bienfaits dans la vie de ton Église éternelle. Que ces paroles, Seigneur, soient gravées sur les tablettes de nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions toujours nous rappeler cette œuvre magnifique, extraordinaire que tu as accomplie. Que nous puissions chérir cette parole vivante et que nous puissions marcher avec elle, Seigneur. Nous puissions la proclamer. Merci pour tout ce que tu fais, Éternel. Gloire te soit rendue. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Amen.